On a souvent tendance à penser que la croissance spirituelle, ou même le développement personnel en fait, ça fonctionne un peu comme un grand distributeur automatique.
Ouais, c'est une image qu'on voit tout le temps.
C'est ça. On s'imagine qu'il suffit d'insérer une petite pièce de discipline, tu vois, de presser le gros bouton de la volonté humaine, et paf, la machine nous délivre instantanément notre dose de sainteté ou de maturité.
Et malheureusement, si seulement c'était aussi simple, hein.
Bah oui, exactement. Mais aujourd'hui, notre mission, pour cette analyse en profondeur, c'est de décortiquer cette illusion. On va se plonger dans le matériel de la session 8 du docteur Matthew S. Harmon.
C'est sur l'épître aux Philippiens, c'est ça?
Le chapitre 2. Tout à fait, le chapitre 2. On va essayer d'extraire les pépites d'une tension qui est franchement fascinante. Comment est-ce qu'on arrive à marier notre propre sueur, notre propre effort, avec une force divine qui, par définition, nous dépasse totalement?
C'est vraiment le cœur du paradoxe humain face au divin, ça. Et ce qui est super intéressant avec le docteur Harmon, c'est qu'il nous met face à un texte qui refuse complètement les réponses binaires, tu vois.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un camp et s'y tenir.
Exactement. On ne peut pas juste dire « c'est 100% l'effort de l'homme » ni affirmer que c'est 100% la magie de Dieu. Les sources qu'on analyse aujourd'hui nous obligent vraiment à regarder cette tension en face, sans chercher le raccourci facile.
Et ce qui est brillant, je trouve, c'est la façon dont ce passage démarre. L'apôtre Paul commence par un simple « ainsi donc ».
Ce qui n'est jamais là par hasard.
Jamais. Pour remettre un peu de contexte pour ceux qui écoutent, ce petit mot fait le pont direct avec le fameux hymne christologique qui précède. Tu sais, ce magnifique poème des versets 5 à 11.
Ah oui, celui qui décrit de manière très poignante comment le Christ a abandonné ses privilèges célestes.
C'est ça. Il embrasse une humilité radicale. Ça va même jusqu'à la mort. Du coup, la question qui se pose avec ce « ainsi donc », c'est de savoir comment cette théologie majestueuse atterrit dans la vraie vie. Genre un mardi matin, quand on est fatigué et en retard pour aller bosser.
Ouais, c'est la vraie question. Et Harmon insiste beaucoup là-dessus. L'apôtre Paul ne fait pas de la haute théologie juste pour le plaisir de stimuler l'intellect, quoi. Ce « ainsi donc », ça transforme littéralement la contemplation en action.
Donc on ne peut pas juste rester assis à admirer l'idée.
C'est exactement ça. Puisque le Christ a fait preuve de cette obéissance radicale, la seule réponse logique, bah, c'est de rendre cette seigneurie évidente dans notre propre quotidien.
Et comment on fait ça en pratique?
Eh bien, la première étape, selon le nôtre, c'est de réaliser que l'obéissance dont Paul parle, elle est fondamentalement verticale.
Verticale? Attends, pas horizontale du coup?
Non, verticale, donc envers Dieu, plutôt qu'envers une autorité humaine.
Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'on a souvent cette image de l'apôtre Paul comme une espèce de figure d'autorité massive, tu vois, presque un patriarche un peu sévère.
Ouais, le prof qui surveille la classe.
Grave. S'il dit « obéissez », on s'imagine tout de suite que c'est à lui qu'il faut rendre des comptes.
Bah en fait, Paul déconstruit lui-même cette idée dans le texte. Il mentionne explicitement son absence.
Ah oui, le fameux « non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ».
Exactement. Et on sait comment fonctionne la psychologie humaine. On se comporte toujours vachement mieux quand le patron ou le parent est dans la pièce. Mais là, Paul déplace le centre de gravité.
L'enjeu, c'est plus de maintenir une façade vertueuse, en fait.
Non, c'est ça. Le but, c'est pas d'impressionner un mentor humain. Il s'agit d'une responsabilité directe, sans aucun intermédiaire, devant Dieu lui-même.
Mais honnêtement, c'est presque plus terrifiant, non? Enfin, je veux dire, c'est facile de faire semblant devant un mentor humain. On peut cacher ses pensées, on peut sourire. Mais devant l'omniscience divine, il n'y a plus aucune cachette.
C'est sûr que ça met une certaine pression, hein.
C'est peut-être pour ça que Paul utilise cette expression qui fait un peu froid dans le dos juste après. Il demande d'accomplir cette œuvre avec crainte et tremblement.
Ah oui, la fameuse expression.
Franchement, ça sonne presque comme une injonction à la paranoïa, quoi. Comment on peut vivre une spiritualité saine si on est constamment paralysé par la terreur? Je suis curieux de savoir ce que dit Harmon là-dessus.
C'est là qu'il faut vraiment regarder sous le capot de ces mots. Parce que dans notre modernité, on associe tout de suite la crainte à la phobie ou à une angoisse super toxique.
C'est vrai, on voit ça comme un truc négatif.
Mais le docteur Harmon décompose cette expression biblique pour montrer qu'elle englobe en fait trois réalités très différentes.
Vas-y, je t'écoute. C'est quoi la première?
La première, c'est une réaction presque involontaire face à l'incroyable sainteté de Dieu. Faut comprendre que quand les humains rencontrent le divin dans ces textes anciens, c'est pas juste une abstraction philosophique.
C'est pas juste une idée intellectuelle.
Non, c'est une expérience physique totalement écrasante. Harmon prend souvent l'image de quelqu'un qui se tient au bord du Grand Canyon pour la toute première fois.
Ah ouais, le vertige.
Exactement. T'as un vertige, un vrai frisson face à l'immensité du truc. Eh bien, ce tremblement s'est vu comme la seule réponse saine face à l'infini.
D'accord, donc perdre ce vertige, ce serait un peu comme banaliser la relation. la réduire à une simple transaction commerciale, en fait. C'est fascinant. Et les deux autres réalités, c'est quoi, du coup ?
Alors, la deuxième dimension de cette crainte, c'est la prise de conscience super brutale des enjeux éternels. Il y a une notion très claire de reddition de compte.
Le jugement, quoi.
C'est ça. L'idée qu'un jour, nos choix seront évalués par un standard de justice absolu. Ça coupe court à toute légèreté.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Et enfin, la troisième réalité, qui est souvent un peu balayée par notre époque très rationaliste, c'est la présence d'un ennemi spirituel.
Ah oui, le côté combat invisible.
Exactement. La sobriété de Paul, elle s'explique aussi parce qu'il part du principe qu'il y a une force active qui cherche notre destruction. Harmon le dit bien, se promener dans un champ de mine avec insouciance, c'est pas de la foi. C'est juste de la folie.
Waouh ! Le décor est posé et il est vraiment immense. Du coup, si on entre dans le vif du sujet maintenant, dans la mécanique même de cette transformation, l'expression qui revient sans cesse, c'est « mettez en œuvre votre salut », suivi direct de « car c'est Dieu qui produit en vous ».
La fameuse tension dont on parlait au début.
Voilà. Et j'essaie de visualiser un peu cette collaboration. Est-ce que ce serait comparable à, disons, posséder un abonnement dans une salle de sport très particulière ?
Une salle de sport, comment ça ?
Bah, imaginons que Dieu soit non seulement le coach qui nous donne la motivation de nous lever le matin pour y aller, mais qu'en plus, il injecte mystérieusement l'énergie musculaire directe dans nos fibres nerveuses pour soulever les haltères.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Le désir et la force viennent de lui, mais au bout du compte, bah, si on reste couché sur le banc, le poids, il va pas se saouler tout seul, quoi. C'est quand même à nous de contracter le muscle.
C'est une super image. L'image de la salle de sport capture vraiment très bien la synergie du texte. En fait, Harmon utilise ce passage pour combattre frontalement deux erreurs fatales, des erreurs dans lesquelles les croyants tombent systématiquement depuis des siècles.
C'est quoi la première erreur, Ulville ?
D'un côté, t'as le mythe du lâcher-prise total. Tu sais, cette posture hyper passive où on se dit que, puisque Dieu est souverain et qu'il fait tout le travail, on a juste à s'asseoir.
Et attendre d'être foudroyé par un éclair de sainteté.
Voilà. Le fameux « laisse faire Dieu », qui sert souvent de couverture polie à une immense paresse spirituelle, soyons honnêtes.
C'est clair. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui doit agir, alors qu'en fait, on veut juste rien faire.
Exactement. Et à l'opposé total de ce spectre, il y a le mythe du « faire plus d'efforts ». Ça, c'est le culte de la performance individuelle.
Ah, le côté très toxique où on serre les dents.
C'est ça. On se crée des tableaux Excel de bonnes résolutions, on s'impose des règles d'une sévérité implacable en pensant qu'à la seule force du poignet, on va sculpter sa propre pureté.
Et le texte, il se positionne comment face à ça ?
Le texte balaye ces deux approches, tout simplement. Paul dit qu'il faut agir, travailler, transpirer, mais précisément parce que le moteur interne, le vouloir et le faire, est fourni par Dieu. C'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux ensemble.
C'est vraiment un concept qui demande qu'on s'y arrête, quoi. D'ailleurs, dans ses notes, Harmon fait un lien passionnant avec l'Ancien Testament à ce sujet, en parlant de la promesse de la Nouvelle Alliance dans Ézéchiel 36.
Ah oui, ce passage est clé pour comprendre.
Comment est-ce que cette prophétie d'Ézéchiel vient éclairer la mécanique de nos efforts, justement ?
En fait, dans Ézéchiel, il y a cette promesse super saisissante où Dieu dit qu'il va arracher le cœur de pierre de son peuple pour lui donner un cœur de chair. Et il va y placer son propre esprit.
Le cœur de pierre contre le cœur de chair.
Voilà. Il faut réfléchir à la différence entre la pierre et la chair. On peut graver des règles magnifiques sur de la pierre, comme les 10 commandements par exemple. Mais la pierre, ça reste inerte.
Elle ne ressent rien. Elle ne réagit pas. Elle n'aime pas. Elle se contente de porter le fardeau de la loi, en fait.
Exactement. Alors qu'un cœur de chair, c'est vivant, ça bat, c'est sensible aux stimuli, et l'esprit, en s'installant dans ce cœur de chair, il vient pas juste donner de nouvelles règles à suivre.
Il fait quoi alors, hein ?
Il modifie les appétits profonds. Il reprogramme littéralement la volonté pour que l'individu désire suivre ses voies. Dieu fournit le vouloir, donc l'inclination profonde, et le faire, c'est-à-dire l'endurance pour l'accomplir.
Waouh ! Ce que tu décris là, honnêtement, c'est d'un soulagement psychologique immense. Je crois que n'importe quel être humain s'est déjà retrouvé face à un miroir en se disant « je sais ce que je dois faire, je connais la chose juste, mais la vérité cruelle, c'est que j'en ai juste aucune envie. »
Oui, on a tous vécu ça.
Savoir que le processus de transformation inclut la possibilité de prier pour que nos désirs mêmes soient court-circuités et remplacés, plutôt que de devoir constamment lutter contre eux à la force de la volonté. Franchement, c'est un changement de paradigme vertigineux.
C'est la grâce appliquée à la racine même de la volonté. Et c'est ça qui est beau. Mais ça nous amène aussi à la question logique suivante, tu vois ?
Qui est ?
Bah, si ce moteur divin est si puissant, S'il fournit le carburant du désir et la puissance de l'action, pourquoi est-ce que le résultat n'est pas automatique? Qu'est-ce qui vient enrayer cette belle mécanique?
Ah oui, et c'est exactement là que Paul prend une direction qui m'a laissé complètement perplexe en lisant les notes. On s'attendrait à ce qu'il pointe du doigt des défaillances morales hyper spectaculaires, genre l'orgueil démesuré, la trahison, la violence.
Oui, les grands péchés habituels, quoi.
National de se plaindre.
Surtout en France, oui.
Grave. C'est une soupape de sécurité quand la journée est mauvaise. Et quant aux contestations, bah on a tous ce collègue qui veut ergoter sur le moindre petit détail juste pour exister dans la conversation. C'est hyper agaçant, on est d'accord, mais pourquoi Paul en fait un péché capital?
Je comprends tout à fait ta réaction, mais pour comprendre le poids de cette accusation, il faut absolument connaître le contexte historique et littéraire que Paul utilise. Il ne parle pas juste d'un mouvement d'humeur dans les embouteillages du matin.
Ah bon? Et il parle de quoi alors?
Dans le lexique biblique de l'époque, murmurer, c'est pas un mot anodin. C'est le terme technique qui encapsule l'échec tragique d'Israël dans le désert, tel qu'on le voit dans le livre de l'Exode ou dans 1 Corinthiens 10.
Donc on parle de l'histoire de la libération d'Égypte là.
Exactement. Le récit est complètement dingue. Le peuple vient d'être libéré de l'esclavage par des miracles inouïs. Tu te rends compte? La mer Rouge s'est littéralement ouverte devant eux.
Ouais, ils ont vu des trucs incroyables.
Et pourtant, à la toute première difficulté, genre un manque d'eau ou une lassitude parce qu'ils en ont marre de la nourriture du désert, ils commencent à murmurer. Et ces murmures dans les tentes, c'est pas des simples critiques culinaires pour dire « la manne est trop salée ».
C'est plus grave que ça.
C'est une remise en question systémique du caractère de Dieu. C'est une manière de lui dire « tu nous as sortis d'Égypte, ok, mais t'es incapable de subvenir à nos besoins. Tes intentions sont mauvaises, on aurait été mieux sous le fouet de nos oppresseurs ».
Ah, je vois. Vu sous cet angle, la plainte, c'est plus une simple faiblesse de caractère. C'est carrément un acte de haute trahison. C'est nier la bonté et la providence de celui qui vient de nous sauver, en fait.
C'est l'essence même de l'avertissement de Paul. Le murmure chronique, ça ferme le cœur de chair dont on parlait plus tôt, et ça le transforme à nouveau en pierre. Ça occulte l'identité du croyant et ça bloque l'action de l'esprit.
Donc, si on arrive à étouffer cette habitude destructrice de se plaindre comme l'ancien Israël, quel est le résultat final? Parce que Paul suggère qu'on ne devient pas simplement neutre, on se transforme en quelque chose de radicalement différent.
Oui, le texte parle de devenir des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération tortueuse et perverse.
Et là, franchement, le docteur Armand dévoile un véritable joyau pour quiconque aime creuser les textes. Il savoir que cette phrase sur la génération tortueuse, elle n'est pas tombée du ciel.
Non, c'est un renversement littéraire brillant de la part de Paul. En fait, il cite directement le livre du Deutéronome, au chapitre 32.
Le fameux cantique de Moïse.
C'est ça. Mais le détail qui change tout et qui est fascinant, c'est l'identité de cette génération tortueuse dans le texte original de l'Ancien Testament.
Et c'est là que le cerveau fait des étincelles, je trouve. Parce que dans l'Ancien Testament, cette description super honteuse de génération tortueuse et perverse, pleine de tâches et de défauts, elle s'appliquait pas du tout aux nations païennes ennemies. Elle s'appliquait à Israël lui-même.
Exactement. L'Israël qui avait rompu son alliance avec Dieu dans le désert.
C'est dingue.
Paul prend l'une des condamnations les plus sévères de toute l'histoire d'Israël et il inverse le miroir. Il regarde ces chrétiens de Philippe qui viennent pour beaucoup du monde gréco-romain, donc pas des juifs à l'origine, et il leur annonce que la grâce a réécrit l'histoire.
C'est un retournement de situation incroyable.
L'humanité qui rejette Dieu est maintenant devenue cette génération tortueuse, mais eux, les croyants, par l'œuvre du Christ, ils réussissent là où l'ancien Israël a échoué. Ce sont eux, les enfants sans tâche.
Et cette réécriture de l'histoire, elle aboutit à une image cosmique magnifique. Paul dit que dans cette nuit morale, les croyants sont appelés à briller comme des étoiles. Et d'après Arsmon, c'est pas juste une jolie métaphore poétique, c'est encore une fois un écho profond à d'autres visions bibliques.
Oui, l'imagerie de la lumière est super ancrée. Armon pointe vers le livre de Daniel, chapitre 12, qui évoque la résurrection finale où ceux qui ont la sagesse brilleront comme l'éclat du firmament.
Et Ésaïe aussi, non?
Tout à fait. Ésaïe 49, où le serviteur de Dieu doit être une lumière pour les nations. Il ne s'agit plus de juste cocher des cases sur un registre moral pour être un bon gars. C'est une vraie vocation lumineuse au milieu des ténèbres.
Et le texte lie cette brillance à notre rapport à ce qu'il appelle la parole de vie. Il y a d'ailleurs un débat passionnant dans les notes sur la traduction exacte du verset 16 en sujet.
Oui, le verbe grec est assez complexe et semble porter une double signification.
C'est ça. D'un côté, il peut se traduire par « s'attacher fermement à la parole de vie », Ça donne un peu l'image d'un naufragé qui s'agrippe à une bouée de sauvetage pour survivre au courant de cette génération tortueuse.
C'est une question de survie, c'est terrible.
Voilà. Mais d'autres traductions optent plutôt pour porter ou présenter la parole de vie. Un peu comme on tendrait un flambeau dans l'obscurité pour éclairer les autres, pour l'évangélisation.
Les linguistes débattent beaucoup là-dessus, mais théologiquement parlant, ces deux idées sont totalement indissociables. C'est la mécanique même de la préservation et de la proclamation.
Ce qui est parfaitement logique au final. Pense aux naufragés, tu vois. On ne peut pas tendre une bouée de sauvetage à quelqu'un d'autre avec conviction si on n'y est pas soi-même agrippé de toutes ses forces.
Ah, très belle image.
La lumière de l'étoile rayonne vers l'extérieur, précisément parce que la fusion thermonucléaire brûle fermement à l'intérieur de l'étoile.
C'est exactement ça.
Mais alors, quel est l'horizon de tout ça? On arrive à la fin du passage. Et Paul lève les yeux vers un événement ultime. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche? Pourquoi briller?
Parce que Paul oriente le regard vers ce qu'il nomme le jour de Christ. C'est le point de fuite de l'histoire humaine, le grand moment du retour du Christ, de l'évaluation finale et de l'achèvement du salut.
Le grand final.
C'est ça. Et là, l'apôtre révèle une vulnérabilité qui est, je trouve, très touchante. Il emprunte encore une fois à Ésaïe cette angoisse de la futilité, cette peur d'avoir, je cite, « couru en vain ou travaillé en vain ».
Il veut que ça compte, quoi.
Exactement. Il veut avoir la certitude au crépuscule de sa vie que son investissement colossal dans cette communauté de Philippe n'aura pas été un simple coup d'épée dans l'eau.
Et pour exprimer son amour pour eux et rassurer tout le monde, il va utiliser une métaphore sacrificielle qui est très forte. Mais qui, faut l'avouer, passe un peu au-dessus de la tête d'un lecteur moderne aujourd'hui. Il parle de servir de libation.
C'est vrai que c'est un concept culturel qu'il faut décoder aujourd'hui.
C'était quoi exactement une libation à l'époque, Eve?
Alors, dans le système sacrificiel antique, qu'il soit juif ou même païen d'ailleurs, on offrait souvent un animal sur un autel. Ça, c'était le sacrifice principal, la base. Mais parfois, en accompagnement, le prêtre versait un liquide, très souvent du vin, par-dessus l'offrande brûlante.
D'accord.
Et ce liquide versé, c'est ça la libation. C'est un ajout, un complément.
Pour rendre ça un peu plus digeste, permets-moi une petite métaphore cunélaire.
Vas-y, je t'écoute.
C'est un peu comme si l'apôtre Paul disait aux Philippiens « Écoutez, votre foi, votre persévérance au milieu de l'adversité, vos efforts quotidiens avec crainte et tremblement, ça, c'est le plat principal. C'est la pièce maîtresse du banquet, le super steak. »
Le plat de résistance.
Voilà. Et si moi, je dois être exécuté en prison pour l'Évangile, si mon sang doit couler, considérez que ma vie n'est que la sauce ou le glaçage qu'on vient verser par-dessus pour sublimer votre sacrifice à vous.
Franchement, l'humilité est renversante. L'un des plus grands apôtres de l'histoire se positionne comme un simple condiment venu relever la foi de ses convertis.
C'est une image parfaite. Le renversement de l'ego est total. Mais ce qui nous oblige à creuser encore plus loin, c'est l'émotion qui accompagne cette perspective chez Paul.
C'est-à-dire? Comment Paul peut-il affirmer, au milieu de cette éventualité glaçante de son propre martyre, qu'il en est joyeux? Et il va même jusqu'à exiger que l'Église se réjouisse avec lui. Comment on passe de la crainte et du tremblement du début du texte à cette joie débordante face à la mort?
C'est vrai que c'est le grand paradoxe de ce texte. Comment est-ce que la terreur et la joie cohabitent?
Eh bien, la clé réside justement dans cette disparition de l'ego que tu viens d'évoquer avec ta métaphore. La crainte et le tremblement, ils étaient liés à la majesté de l'œuvre de Dieu, pas à la préservation de soi.
Ah, nuance super importante.
Quand Paul réalise que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en lui, il est complètement libéré de la dictature de sa propre survie ou de sa propre gloire. Son identité n'est plus dans son statut d'apôtre invincible, mais dans sa capacité à glorifier Christ. Si mourir ajoute de l'éclat à la foi de l'Église, alors la mort perd son venin. Elle devient un instrument de joie.
C'est le triomphe absolu sur cette culture du murmure qu'on évoquait tout à l'heure.
Tout à fait.
Face au manque d'eau dans le désert, Israël s'était effondré dans la plainte, prisonnier de son propre confort. Et là, face à l'exécution imminente dans une prison romaine, Paul déborde de joie. La boucle est bouclée.
C'est un contraste saisissant.
Alors, pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle, que doit-on retenir de l'analyse du docteur Harmon pour l'application au quotidien? Quel est l'atterrissage pratique pour nous?
La synthèse du docteur Harmon est vraiment très pragmatique. Il souligne que notre grande responsabilité, c'est de faire fructifier intentionnellement ce que Dieu a déjà implanté en nous.
Concrètement, ça veut dire quoi ça?
Ça implique de s'attaquer à l'un des mensonges les plus pernicieux de l'ennemi spirituel. C'est cette petite voix intérieure qui murmure sans cesse. Tu ne changeras jamais. Tes addictions, tes défauts de caractère, ton orgueil, c'est trop ancré en toi. C'est peine perdue.
Et ce mensonge, il est diabolique. parce qu'il nous ramène direct au mythe du distributeur automatique cassé. Il nous persuade de même plus essayer d'appuyer sur le bouton.
Exactement. C'est le découragement total. Mais Harmon nous rappelle que le changement profond, par la puissance de l'esprit, est toujours possible. Cependant, et c'est crucial, il faut abandonner le fantasme du miracle instantané.
Adieu la pilule magique.
Voilà. La guérison des schémas de pensée toxiques, c'est presque jamais un coup de baguette magique qui effacerait toute tentation du jour au lendemain. C'est un engagement dans une bataille délibérée.
Et ça se traduit comment dans la vraie vie?
Ça veut dire s'entourer d'une communauté, identifier précisément un domaine de lutte et prier avec insistance pour que Dieu transforme non seulement nos habitudes, mais d'abord nos envies les plus enfouies. C'est cela, concrètement, mettre en œuvre son salut. C'est une lutte intentionnelle de tous les jours.
Une perspective qui donne vraiment une dimension épique à nos luttes les plus banales. Pour clôturer cette exploration des textes, il y a une pensée assez provocatrice qui émerge de cette imagerie des étoiles utilisée par Paul.
Ah oui, l'astronomie.
Oui, l'astronomie, ils enseignent une vérité un peu troublante sur la lumière stellaire. La lumière que nous voyons dans le ciel nocturne, elle met parfois des années, des décennies, voire des millénaires, à traverser l'immensité glacée de l'espace pour parvenir jusqu'à nos yeux.
Contempler les étoiles, c'est littéralement regarder dans le passé, en fait.
C'est ça. Alors si la transformation spirituelle que nous avons détaillée aujourd'hui est lente, laborieuse, pleine de craintes et de tremblements, si elle n'offre en rien la gratification immédiate qu'on espère souvent, se pourrait-il que la lumière que l'on peine à émettre aujourd'hui, dans le secret de nos batailles invisibles, soit exactement l'éclat dont quelqu'un d'autre aura désespérément besoin pour se repérer dans sa propre nuit, des mois ou des années plus tard?
C'est une pensée incroyable.
Il y a de quoi méditer sur cette lenteur. Même quand la mécanique de notre volonté semble rouillée, le travail invisible, lui, il continue d'éclairer l'avenir.
Une réalité magnifique, oui. Ça confirme que l'effort fourni sous le regard divin n'est jamais, jamais vain. La lumière finit toujours par trouver son chemin.
Absolument. Il y a de quoi garder les yeux fixés vers le ciel étoilé. À la prochaine fois.